France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle fut riche et réjouissante cette semaine finistérienne. Les épisodes précédents sont disponibles en podcast si vous les avez ratés. Nous avons parlé notamment de l'Artothèque de Morlaix, une association qui prête des œuvres d'art, exactement comme la bibliothèque prête des livres, histoire de susciter des rencontres entre le grand public et l'art contemporain. On a aussi évoqué une association qui soutient les parents dont l'enfant est né avec une fente labio-palatine, malformation qu'on appelait auparavant le bec de lièvre. Cette asso est basée dans le Finistère mais propose des groupes de parole en visio partout en France. Elle fait un boulot très précieux pour informer les familles sur cette pathologie méconnue qui concerne pourtant 3 naissances par jour en France. Et aujourd'hui, dernier jour dans le Finistère, je vous emmène au marché, ou presque. Un passage d'abord par le stand Poisson. La parole est à une association qui défend la pêche durable. Puis du côté des fleurs, je passe un coup de fil à une ferme florale bio. Acheter des bouquets de fleurs qui ont poussé en France et pas à l'autre bout du monde, ça devrait être une évidence. C'est pourtant un réflexe très peu répandu. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
C'est la rentrée, meilleur moment pour prendre des bonnes habitudes de consommation. Voici une proposition. Et si on faisait attention au poisson? Repenser la façon dont on consomme le poisson. Voici une association soutenue par la Fondation de France qui peut vous y aider. Elle s'appelle Pleine Mer. Le fondateur est au bout du fil. Bonjour Charles Bren.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes basé à Plougastel d'Aoulas. Pleine Mer se bat pour soutenir la pêche artisanale et durable, les circuits courts et la vente de poissons locaux. Et vous avez commencé par dresser une carte qu'on retrouve sur votre site. Pourquoi est-il essentiel de cartographier les points de vente de poissons ?
En tant que marin pêcheur moi-même, je me suis rendu compte, et pas mal de mes collègues, que la difficulté c'était l'information dans la vente directe, notamment parce qu'on est forcément sur le littoral, souvent isolé, et il faut absolument informer celles et ceux qui ont envie de se nourrir en direct de nos poissons. Donc on a mis au point cette cartographie qui permet à tous les consommateurs, nous on appelle ça les mangeuses et les mangeurs de poissons, de pouvoir savoir qui pêche et qui vend où et quoi en direct sur tout le littoral français.
Combien d'adresses répertorié aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a plus de 650 points de vente, ultra majoritairement sur le littoral, et puis quelques points dans les terres sur quelques AMAP, quelques collectifs ou quelques pêcheurs qui vendent sur des marchés dans les terres, comme on dit.
Vous l'avez dit, vous êtes vous-même marin-pêcheur, mais votre parcours est assez singulier.
Eh ben oui, et vraiment il me semble pas singulier parce que c'est le mien, mais la pêche a toujours été là depuis le départ. Alors je suis pas du tout d'une famille de marins pêcheurs. Moi j'ai grandi d'une famille plutôt de gens aisés qui faisaient des grandes études, mais moi j'étais très attaché à la pêche parce que j'y passais toutes mes vacances et donc j'ai décidé de suivre ce chemin-là, mais d'abord en faisant une école d'ingénieur agro qui s'occupe de pêche à Rennes, et puis de travailler autour de la pêche très longtemps en asso, en ONG, dans des bureaux d'études, en vendant du poisson. Et puis, à 30 ans, j'ai quand même voulu aller au bout de l'expérience, même si je pense qu'une partie de ma famille n'était pas forcément pour au départ, mais d'aller au bout du rêve et puis de devenir marin pêcheur moi-même. Même si c'est qu'une facette de ce que je fais, c'est essentiel de passer du temps en mer pour moi depuis maintenant une quinzaine d'années.
Voilà, c'est important d'avoir un pied dans le bateau quand on gère cette association de défense de la pêche durable.
C'est ce qui me manquait souvent. Je trouvais que mes copains en ONG manquaient de technique sur les questions de pêche. Mmh. Et puis mes copains pêcheurs, ils faisaient de l'écologie, certains d'entre eux, au quotidien, mais ils trouvaient que l'écologie était un gros mot. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire les deux. Et aussi pour ça qu'avec un groupe d'amis, on a monté Pleine Mer pour pouvoir justement se faire se parler ces deux mondes qui souvent ont les mêmes objectifs, mais se parlent mal ou se comprennent mal.
Voilà, les deux mondes, pour résumer, ce sont les écolos d'un côté, les pêcheurs de l'autre.
Voilà, alors que dans les deux côtés, il y a une diversité parmi les écolos et parmi les pêcheurs. Et on va dire, c'est ceux qui ont du bon sens dans les deux camps. On essaye de les rassembler, de les faire discuter ensemble.
Alors la cartographie, c'était le point de départ de Pleine Mer. Il y a beaucoup d'autres projets, et notamment un projet baptisé Mer de Liens. Quel est le principe, Charles Bren ?
Eh ben c'est très simple, pour essayer d'accompagner la pêche dans sa transformation vers une durabilité plus grande, on s'est rendu compte que c'était un petit peu comme nos cousins agriculteurs et agricultrices. Là, c'était souvent l'apport aussi de nouveaux entrants dans la profession qui n'ont pas forcément le même regard. Il y avait ça, et il y a aussi la difficulté à l'installation, qui est pareil pour le monde agricole. Et donc on a voulu créer une structure qui est en train de se monter, dont on va développer le projet à partir de cet automne, qui va en fait aider celles et ceux qui veulent s'installer à la pêche de manière durable, avec une aide principalement financière, mais pas uniquement, avec un accompagnement technique, commercial, essayer d'identifier pour ces personnes-là les bateaux qui seront à vendre. Il y a une grande difficulté aussi à avoir accès aux droits et aux quotas de pêche qui sont souvent captés par la pêche industrielle. Et donc c'est ça la vocation de Mer de Liens, c'est de permettre, grâce à une épargne solidaire et citoyenne, à celles et ceux qui veulent s'installer dans la pêche de manière durable, de pouvoir le faire.
Quel est le calendrier pour cet appel à l'épargne citoyenne ?
Et les statuts se sont déposés dans ce mois de septembre, donc n'hésitez pas, celles et ceux qui ont envie de soutenir le projet, à aller sur le site internet mer-2-lien-au-pluriel.org et laisser votre mail, et on vous avertira du lancement de la participation citoyenne qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, très rapidement.
Votre association milite aussi sur un autre sujet qui est assez méconnu. Il s'agit du lien entre pêche et migration qui crée de nombreuses injustices et inégalités. Pouvez-vous nous expliquer ce lien ?
Alors il y a deux liens. Le premier, qui est assez dramatique, c'est que nos modes de consommation occidentaux ont fait en sorte que notamment les littoraux des pays du Sud, notamment je pense à l'Afrique de l'Ouest, ont été surpêchés. Et donc notamment, on peut penser au Sénégal, à la Mauritanie, les pêcheries côtières ont été dévastées du fait de la raréfaction des ressources par nos imports ou par l'export de nos flottes de pêche industrielles. Et donc mécaniquement, les pêcheurs, enfin les personnes vivant là-bas, dont la pêche était la premières ressources, on se sont vus dans l'obligation de migrer pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était la pêche leur métier. Et donc, on retrouve dans pas mal de flottes industrielles dans le monde des gens, des migrants issus en fait de ces peuples pêcheurs qui se sont vus, on va dire, qui ont vu leurs ressources diminuer. Alors, à la fois dans les pêcheries industrielles, mais il y a aussi un autre effet. Là, je pense plutôt, on est dans le Finistère, notamment, on va dire la flotte chalutière intermédiaire, les bateaux de 25 mètres. En France, elle a de plus en plus de mal à recruter. Donc les vocations se perdent. Et en fait, beaucoup de migrants, notamment sénégalais, viennent travailler sur les bateaux de pêche français depuis maintenant une quinzaine d'années.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que si on changeait notre manière de consommer le poisson, si on consommait plus durable, ça ferait du bien aussi sur ce volet-là, sur celui de la migration ?
Ah mais ça, c'est pas seulement, mais évidemment que ça aura un impact sur, on va dire, sur la capacité des peuples à pouvoir vivre là où ils le souhaitent, donc là où ils sont nés, ça évidemment, mais aussi sur leur cadre de vie, parce que la surpêche ou l'aquaculture intensive dégrade l'environnement, les environnements locaux de ces gens-là. Donc effectivement, la consommation a un rôle essentiel pour aller dans un sens d'une transition sincère pour nous, mais aussi partout dans le monde.
Autre sujet conso qui concerne beaucoup de monde, le thon en boîte. Est-ce un désastre écologique, Charles Brenne ?
On va dire que d'une manière générale, tout ce qui est import massif de lointain, le thon en boîte, il est ultra majoritairement issu des zones équatoriales, de pêcherie industrielle dans le Pacifique et dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique. Donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est du poisson qui est pêché loin d'ici, dont l'énergie a été conséquente parce qu'il a été d'abord congelé, puis renvoyé jusqu'à chez nous, mis en boîte bien souvent dans des pays du Sud parce que ça coûte, la main d'œuvre est moins chère. Et c'est une ressource qu'on pourrait, à mon sens, laisser plus majoritairement aux pays riverains de ces zones-là. Je pense au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest ou à l'océan Indien, de l'Inde à Madagascar, toutes ces régions-là. En fait, elles sont surpêchées par notamment l'Occident pour ces thons en boîte. Donc non, on peut clairement l'abandonner, préférer typiquement le thon germont on est début septembre. La pêcherie a encore lieu dans l'Atlantique, donc on peut pêcher, manger du thon issu de pêcheries européennes et françaises, notamment encore un petit peu de thon blanc de ligne, qui est un poisson génial, mais complètement oublié. Non, on oublie le thon en boîte et on se retourne vers des poissons plus locaux.
Le problème de ce secteur, finalement, c'est qu'il y a encore énormément de poissons qui sont trop peu connus et qu'on a tendance toujours à aller vers les mêmes.
C'est ça le gros souci, c'est les habitudes de consommation. À la fois en volume, en fait, on consomme trop de produits de la mer. Les océans, ils sont pas extensibles. On sait depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on pourra pas pêcher plus que depuis que 95-96. C'est en gros un gâteau qui est d'une centaine de millions de tonnes dans le monde, donc on peut pas manger plus. Les Européens, notamment les Français, nous on consomme beaucoup plus que si on divisait ces 100 millions de tonnes par le nombre d'habitants de cette petite planète. Donc à la fois on consomme trop et puis on fait des mauvais choix. Alors c'est pas forcément, on va pas culpabiliser chacune et chacun, mais c'est l'histoire sûrement du marketing. Aujourd'hui en France, on mange majoritairement du saumon d'élevage, qui est une catastrophe écologique, du cabillaud, qui est pêché de manière industrielle et ultra majoritairement loin de France, et du thon océanique, notamment ce que vous disiez sur les thons en boîte. Donc il faut se tourner vers une consommation moindre en volume, mais meilleure en qualité et en impact, et donc on privilégie des poissons de circuit court, idéalement pêchés en France, idéalement avec des techniques de pêche plus douces. On privilégie forcément la ligne, le casier, la plongée, qui ont des impacts moindres sur l'environnement et qui consomment peu d'énergie. Et je pense qu'on ira dans le bon sens.
Pleine Mer, association basée à Plougastel d'Aoulas, dans le Finistère. Merci beaucoup, Charles Brenne.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Je ne me lasse jamais de le répéter dans cette émission. Les fleurs, c'est comme les fruits et légumes, c'est mieux quand c'est local et de saison. Il est plus que temps d'en finir avec les fleurs qui traversent la planète dans des avions réfrigérés. C'est le cas, je le rappelle, de l'immense majorité des bouquets qui sont vendus en France aujourd'hui. Une floricultrice est au bout du fil. Bonjour Lucie Beugnon.
Bonjour Dorothée.
Votre ferme est à Rosnoen, dans le Finistère, la ferme de Kervurzin. Vous vendez sur place et au marché de Brest. Quelle variété de fleurs proposez-vous en ce moment, dites-moi?
Alors en ce moment, j'ai les dahlias qui arrivent. C'est un peu les stars de la fin d'été, début d'automne. Ensuite, j'ai des zinnias, des cosmos, amarantes, ageratum et plein d'autres.
Mmh. Qu'est-ce que ça donne en termes de couleurs? Pas mal, non?
Oui. Pas mal. Là, c'est très coloré, beaucoup de rose, orange, jaune.
Vos fleurs sont bio, Lucie, cultivées sans pesticides. Quelles contraintes cela représente-t-il pour des fleurs en particulier?
Alors, la seule contrainte qu'on pourrait trouver, ce serait administrative. En fait, on a beaucoup de démarches à faire quand on achète nos semences, parce qu'on a du mal pour l'instant à trouver les variétés en semences bio. Donc, on doit faire des démarches.
C'est la seule difficulté, dites-vous. Donc, ça n'est pas plus compliqué de faire pousser des fleurs en bio?
Alors, quand on fait en très diversifié comme je fais, c'est-à-dire qu'on cultive énormément d'espèces, non, c'est pas plus compliqué.
Pourquoi la diversité est-elle importante?
Alors, c'est important parce que du coup, on peut casser le cycle des maladies. Mmh. En faisant des rotations, donc en fait, en ne laissant pas les mêmes variétés pousser tout le temps au même endroit. Et aussi pour la biodiversité, en fait, on attire des insectes auxiliaires, donc ceux qui vont nous aider à limiter les insectes qu'on ne veut pas, en ayant des floraisons très étalées sur l'année, des variétés qui attirent certains insectes, d'autres qui en attirent d'autres. Et donc ça se régule tout seul.
Comment progresse chez les consommateurs, d'après vous, cette idée qu'il vaut mieux acheter des bouquets de fleurs locaux?
J'ai l'impression que ça progresse bien. Moi, je vends sur un marché bio. Donc, les gens étaient déjà assez sensibilisés à tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont plus envie d'aller acheter des fleurs qui ont poussé. Ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment.
C'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas du tout, hein, de demander... D'où viennent les fleurs, contrairement aux légumes et aux fruits, là encore?
Oui, c'est vrai. Et aussi la saisonnalité qui est très importante.
Les fleurs qui poussent localement ont une durée de vie plus longue, hein. C'est important de le souligner aussi, Lucie.
Oui, aussi, parce que du coup, elles n'ont pas voyagé, donc elles sont cueillies la veille du jour où on les vend, ce qui fait qu'elles tiennent entre 7 et 15 jours.
Elles sentent meilleures aussi, vous diriez?
Oui, aussi. Alors, il y a des variétés qui n'ont pas vraiment d'odeur, mais les variétés qui sentent, oui.
Quelle est la championne du parfum pour vous?
Je dirais le pois de senteur.
Sans blague. Comment vos fleurs ont-elles supporté la chaleur cet été?
Alors, moi, ça a été dans le Finistère. On a eu chaud, mais elles ont bien résisté. Par contre, là, il a recommencé à pleuvoir fin août et ça fait du bien.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Lucie?
Quand les gens reviennent me voir pour me dire que leur bouquet est toujours dans le vase et qu'il n'a pas bougé. Et...
Longtemps, longtemps après.
Oui. Pas tout le bouquet, mais certaines fleurs qui peuvent tenir 3 semaines en moins.
Merci beaucoup, Lucie Beugnon. La ferme de Kerverzin, c'est donc à Rostroen, dans le Finistère. Bonne journée.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Et merci à l'équipe des Carnets de Campagne. Sophie Hoffmann qui prépare cette émission, Titouan Labarre à la technique aujourd'hui. Sachez que le Puy de Dôme sera bientôt au programme des Carnets. N'hésitez pas à nous écrire sur le site de France Inter pour signaler des gens géniaux ou des initiatives réjouissantes à Clermont-Ferrand et partout dans le département 63.